beaucoup Sylvie. Merci aussi à Delphine de m'avoir invité. Alors, le titre de mon intervention est les frontières réseau du formel à l'informel, le cas israélo-palestinien. Cette présentation propose de réfléchir sur les liens entre, d'un côté, les mécanismes de contrôle déployés par les États pour réguler, filtrer les mouvements des populations qui entrent sur dans leurs espaces, on va dire, et de l'autre, les pratiques informelles de contournement et de détournement que développent ces mêmes populations. Alors, cette présentation repose sur une étude ethnographique de l'économie informelle qui s'est développée depuis les 25 dernières années autour de l'allocation des permis de travail aux Palestiniens de Cisjordanie qui sont employés en Israël, par des employeurs israéliens, juifs ou arabes. En effet, à partir de la première intifada, 87-93, les autorités israéliennes ont mis en place un ensemble de restrictions de mouvement, dont un système de permis imposé aux Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza pour entrer en Israël dans ses frontières de 67 ou dans la ville de Jérusalem-Est annexée par Israël. Donc les Palestiniens, pour entrer, ont dû obtenir ce permis. Et ce système, si vous voulez, n'a pas simplement réduit le nombre d'entrées, mais il a surtout généré des réseaux d'intermédiaires, formels et informels, j'insiste sur les deux, extrêmement nombreux et extrêmement denses, qui se sont densifiés plus les restrictions de mouvement étaient durcies par les Israéliens, notamment à partir de la période de la deuxième intifada, c'est-à-dire à partir des années 2000. Et pour cause, puisque ce système de permis produit ce qu'on peut appeler une double individualisation du contrôle. Qu'est-ce à dire ? C'est-à-dire que, d'une part, en définissant la capacité d'un Palestinien d'obtenir un permis selon un profilage politique et biosocial, il individualise le contrôle. Et il l'individualise d'autant plus puisqu'il impose aux Palestiniens désireux, à un Palestinien désireux d'obtenir un permis, le parrainage d'un citoyen israélien. C'est-à-dire qu'en fait, l'obtention d'un permis est dépendante à la fois du profil biosocial et politique, mais également du positionnement d'une personne dans un réseau donné. Alors, en concentrant sur ce cas d'étude, qui est peut-être un peu une tête d'épingle, je pense qu'on peut réfléchir de manière un peu plus large sur les chaînes de relations qui se développent à travers les systèmes d'attribution de permis qu'on trouve de visa, hein, qu'on retrouve en Europe, au Canada, etc., etc., qui, de mon point de vue, génèrent le même type de processus. Et ce que je vais essayer de démontrer à travers cet exemple, c'est que les systèmes de contrôle formel génèrent quasi systématiquement de l'informel, pas simplement au niveau du street level bureaucracy, hein, c'est-à-dire comment les bureaucrates s'adaptent à des règles qui ne sont pas toujours très, très efficaces, très, très cohérentes, mais des pratiques informelles à des échelles beaucoup plus importantes. Et je montrerai aussi que ces systèmes formels intègrent ces pratiques informelles à leur propre fonctionnement, de telle sorte qu'il n'est plus possible, dans la pratique, du point de vue d'un anthropologue ou d'un sociologue, de distinguer un dispositif de contrôle formel d'un dispositif de contrôle informel. Et je dirais même qu'il est même très difficile, de ce point de vue, d'envisager une mobilité comme étant formelle ou informelle, ou légale ou illégale. Vous verrez par la suite. Deuxième chose, à travers cette intervention, à travers l'analyse de ces chaînes de relations, vous verrez que j'essaye d'envisager les frontières comme des réseaux, ou plutôt comme, pour reprendre le concept de Deleuze et de Guattari, comme des agencements d'acteurs et de pratiques, d'institutions dont les intérêts ne convergent pas toujours. En ce sens, mon travail s'inscrit dans la lignée des travaux qui ont été faits par Didier Bigot, les gens qui ont travaillé autour de lui, mais aussi Sandro Mezzadra, Nielsen, et puis également André Arrea, Federica Infantino à l'Université libre de Bruxelles. Donc des chercheurs qui proposent d'envisager la frontière en laissant de côté la métaphore de la séparation et du bouclage pour envisager ces frontières d'abord à travers leur fonctionnement et surtout comme des articulations. Des articulations d'opérations de filtrage, de contrôle, etc. qui inscrivent les populations dans des temporalités et des spatialités disjointes, non pas séparées, mais disjointes. On reviendra, si vous voulez, dans le débat sur ces nuances. Alors, à la différence de ces chercheurs, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de travailler surtout sur les dimensions informelles de ces réseaux frontaliers. Et donc, en travaillant sur ces réseaux frontaliers informels, ce qu'on peut voir aussi, c'est que si le réseau peut être une ressource dans le parcours migratoire, c'est, à mon avis, avant d'être une ressource, un énorme dispositif de régulation. Alors mon propos va s'articuler en trois parties. Dans la première partie, je vais montrer que les mobilités palestiniennes ne sont pas simplement dépendantes de statut ou profil biosocial, mais plutôt de la localisation des individus dans un réseau donné. Dans une deuxième partie, je vais démontrer que ce processus d'obtention de permis favorise la cooptation d'intermédiaires formels et informels qui sont complètement intégrés au rouage de l'État et qui fonctionnent comme des autorités régulantes aux côtés de l'État. Et enfin, je montrerai comment ce système de cooptation d'intermédiaires informels affecte profondément le fonctionnement des frontières et aussi le rapport à l'espace de ces populations. Alors la mobilité, est-ce que c'est une question de statut, de profil ou de réseau? Officiellement, les autorités israéliennes attribuent les permis aux Palestiniens, comme je vous le disais, en fonction de leur âge, de leur profession, de l'état civil, ainsi que de l'appartenance politique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au cours de certaines années, surtout depuis la deuxième intifada, les hommes célibataires âgés de moins de 30 ans, par exemple, n'étaient pas autorisés à avoir un permis de travail en Israël. Parce qu'on considérait qu'un célibataire de moins de 30 ans avait plus de possibilité de poser une bombe que quelqu'un qui était marié, qui avait 40 ans et beaucoup d'enfants. Évidemment, ce sont des constructions très particulières. De même, un homme marié âgé de 30 ans, ayant des liens avec certains partis politiques, comme le Djihad Islami par exemple, ou le Parti communiste palestinien, était aussi considéré comme étant quelqu'un de dangereux, même si ce lien n'existait plus à l'heure actuelle et qu'il était daté d'une vingtaine ou d'une quinzaine d'années. Cependant, en pratique, le profil biosocial et sécuritaire d'un candidat est moins déterminant pour l'obtention d'un permis de circulation que son appartenance et sa position dans un réseau. Alors, trois éléments soutiennent cette affirmation. Tout d'abord, il faut savoir que les profils biosociaux ne sont pas du tout clairement définis. Il a fallu attendre 2011-2012 pour qu'une association israélienne pousse l'armée israélienne, ou l'administration civile israélienne en charge des territoires occupés palestiniens, pour publier les critères selon lesquels était attribué tel ou tel permis. En outre, il y a un certain niveau d'arbitraire, même en dépit de ces critères, dans l'attribution de ces permis. On peut répondre complètement à ce statut et puis se voir refuser tel permis sans en connaître les raisons. Deuxième chose, c'est qu'afin d'obtenir ce permis, une personne a systématiquement besoin d'un parrainage de la part d'un Israélien. Alors, là, vous avez la carte de la Cisjordanie et Israël. Un ouvrier palestinien demandant un permis va se tourner vers un employeur israélien qui lui-même va se tourner vers le bureau du travail israélien, qui va transmettre la demande au service de renseignement israélien, et si les services de renseignement israéliens donnent leur feu vert, cette personne va pouvoir recevoir un permis. Troisièmement, dans la pratique, les réseaux sont beaucoup plus influents que le profil biosocial. Si on accepte de collaborer avec les services de renseignement israéliens, en général, on a tout de suite un permis, qu'on ait l'âge ou qu'on n'ait pas l'âge. Et puis, les Israéliens ont eux-mêmes instauré des formes de contournement tout à fait informelles. Si on connaît un membre du Parlement israélien ou si on connaît des fonctionnaires israéliens plus ou moins bien placés, on peut avoir un permis, même si le profil ne correspond pas au profil officiel. En bref, officiellement et pratiquement, une procédure de demande de permis rend les Palestiniens étroitement dépendants des sponsors du côté israélien. J'en viens à la deuxième partie, c'est-à-dire justement sur le rôle de ces autorités régulantes. Alors je parle d'autorités régulantes, pourquoi? Parce que ces sponsors sont tenus responsables du comportement des Palestiniens qu'ils parrainent. Ils sont également en mesure de choisir telle personne au détriment d'une autre. Ce sont eux qui font la sélection, finalement. Et ils peuvent faciliter ou accélérer la procédure en fonction de leur emploi du temps, de leur volonté, de leur efficacité. Donc, de fait, leur intervention vient modifier le fonctionnement de la procédure de manière extrêmement pratique pour les personnes. Et là, on n'est pas du tout dans quelque chose de conceptuel ou théorique, mais quelque chose d'extrêmement pratique, puisque une personne va d'abord se tourner, un Palestinien va d'abord se tourner vers ce garant, avant même d'avoir un contact avec les autorités israéliennes. Ce qu'il faut dire en outre, c'est que ce système de parrainage a contribué à coopter des intermédiaires, non pas simplement israéliens, mais aussi palestiniens, dont le nombre n'a cessé d'augmenter entre les années 90 et les années 2000, au fur et à mesure que Comme je disais tout à l'heure, les mesures, enfin les restrictions de mouvement se sont durcies au cours de la deuxième intifada et puis ensuite dans la période post-intifada. Depuis l'éclatement de la seconde intifada, le nombre d'intermédiaires assurant le lien entre les travailleurs palestiniens et leurs employeurs a augmenté parce que, à partir des années 2000, les citoyens israéliens se sont vus interdire l'accès aux zones A, aux zones sous contrôle palestinien. Enfin, elles ne sont pas restées sous contrôle palestinien très longtemps, puisqu'en 2002, Israël a réenvahi les zones autonomes palestiniennes. Et en outre, étant donné le nombre d'attaques croissantes contre des Israéliens se déplaçant en Cisjordanie, beaucoup d'Israéliens ont cessé de se rendre de l'autre côté de la ligne verte. Ce qui fait que pour recruter les travailleurs, beaucoup d'entrepreneurs israéliens ont fait appel à d'autres personnes, hein, pas simplement des Palestiniens, des médiateurs palestiniens à l'intérieur d'Israël, palestiniens de citoyenneté israélienne, qui eux-mêmes ont des contacts directement avec des ouvriers, mais parfois aussi avec des Palestiniens à l'intérieur de la Cisjordanie. C'est-à-dire qu'on a un allongement des chaînes de médiation et un accroissement de la distance topologique entre les employeurs d'un côté et les ouvriers palestiniens de l'autre. Alors il faut ajouter à ces chaînes de médiation le fait que vous avez d'autres intermédiaires qui sont apparus, des intermédiaires qui ont été cooptés directement par les autorités israéliennes de manière informelle. Avant, les Palestiniens passaient par le service de coordination palestinien qui ensuite s'adressait, qui gérait justement la relation entre le bureau du travail israélien et les ouvriers palestiniens. Avec la rupture de la coopération sécuritaire et des liens politiques entre Israéliens et Palestiniens pour la deuxième intifada, les Israéliens ont autorisé les municipalités palestiniennes, les chambres de commerce, des bureaux d'avocats, certains ministères, à faire les demandes directement ou à relayer les demandes des Palestiniens. Ce qui fait qu'on a une multiplication des intermédiaires et une fragmentation du pouvoir, finalement, de distribuer ce permis. Enfin, la complexité de ces chaînes de médiation, elle a été accrue puisque la complexité et le manque de transparence dans la procédure amènent toujours plus d'avocats, d'intermédiaires qui viennent renseigner, expliquer, aider pour essayer de trouver pour quelles raisons X ou Y, telle ou telle personne n'a pas de permis, ou alors tout simplement pourquoi on ne lui répond pas, pourquoi on ne lui donne pas de carte magnétique, etc., etc., etc. Alors au départ, c'était des avocats palestiniens, mais comme les avocats palestiniens n'ont pas toujours une grande liberté de mouvement dans l'espace israélo-palestinien, ben, ces avocats palestiniens font appel à des avocats israéliens, donc vous imaginez la multiplication et l'extension de ces chaînes de médiation. Et je passe, bien entendu, un ensemble d'intermédiaires plus ou moins opportunistes qui vendent même les contacts avec telle ou telle personne qui peut aider telle ou telle personne. Hein, donc on a une espèce d'économie de informel qui se greffe sur l'économie informelle de la médiation. C'est pour ça que je pense que le terme d'agencement est assez intéressant. En somme, ce système de parrainage ouvre des opportunités, donc ça c'est un peu la troisième partie, pour une série d'acteurs qui se réapproprient le système de permis afin d'accroître leur pouvoir et leur profit. Et certains entrepreneurs israéliens et palestiniens ont d'ailleurs mis en place des activités assez rentables, dans ce qu'on appelle le trafic informel de vrais permis. Alors comment ça marche, le trafic informel de vrais permis? C'est-à-dire qu'au lieu d'établir une demande formelle auprès du bureau du travail israélien pour 100 permis, un employé va demander 200 permis. Il a besoin uniquement de 100 ouvriers, mais il va en demander 200. Un permis, ça coûtait à peu près en 2010 1200 shekels, c'est-à-dire 240 euros par mois. Et donc cet employeur va vendre entre guillemets, aider les Palestiniens à avoir ces 100 permis supplémentaires en les revendant 360 euros. Alors c'est pas mal parce que finalement par mois ça permet d'avoir 12 000 euros de marge pour des ouvriers dont on ne s'occupe même pas, dont on n'a même pas à trouver du travail, etc. etc. Alors, c'est-à-dire que, bon, il faut s'organiser un petit peu, parce que le problème, c'est que cette activité, si on l'amène au long cours, il faut arriver à justifier auprès des autorités israéliennes, notamment auprès des impôts, comment se fait-il qu'on demande 200 ouvriers chaque année et qu'on a à peu près tel ou tel niveau de chiffre d'affaires. puisque évidemment, les autorités israéliennes regardent ça quand même de près, parfois, surtout quand elles ont des soupçons sur certaines personnes. Donc dans ces cas-là, bah, il suffit de s'organiser un peu, c'est-à-dire de faire appel à des comptables, de faire appel à des avocats qui vont monter des fausses boîtes, pour monter des fausses factures, pour monter des fausses commandes, donc des fausses activités, etc., etc., etc. C'est-à-dire que vous avez toute une activité parallèle qui n'existe pas, qui est complètement officielle et qui permet de couvrir ce trafic informel de vrais permis. Et les autorités israéliennes, je parle de vrais permis, puisque pour chaque permis, il faut la carte d'identité de la personne, son état civil, etc., 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 puisque les services de renseignement ne donnent pas, vérifient chaque demande de permis. Donc vous avez, si vous voulez, une économie qu'on a du mal à qualifier, est-ce qu'elle est formelle, est-ce qu'elle est informelle, hein, mais qui en tout cas marche très très bien et arrive non pas seulement à faire la richesse d'un certain nombre de personnes, mais à des ramifications extrêmement profondes. Alors je vous parlais des avocats, des comptables, etc., mais vous avez des officiers très haut placés de l'armée israélienne qui, pour aider un certain nombre de leurs compères, ont été jusqu'à modifier les quotas du nombre de permis pour pouvoir jouer justement sur ce type de trafic de permis. Donc si vous voulez, c'est une économie qui va très très loin dans ses ramifications à l'intérieur de la société israélienne et palestinienne et qui en plus ne fait pas simplement qu'allonger les chaînes de médiation, mais génère aussi de nouveaux assemblages, puisqu'on n'est plus simplement dans les relations entre un employeur israélien et le bureau du travail israélien, mais un certain nombre de médiateurs palestiniens en Cisjordanie, puisqu'il faut quand même être sûr d'avoir... si vous voulez gagner beaucoup d'argent, il faut des candidats fiables. Donc il faut que ces médiateurs fassent eux-mêmes la sélection pour vérifier que ces personnes n'ont pas de lien avec des partis indésirables. Hein, donc vous avez aussi, finalement, des formes de contrôle qui pénètrent de manière extrêmement diffuse jusqu'au cœur des enclaves palestiniennes. Et puis vous avez de l'autre côté... un ensemble de clics qui se met en place. Donc on n'a plus simplement des chaînes de médiation, hein, mais des espèces d'assemblages où vous avez des clics, des groupes plus ou moins structurés qui vont s'instaurer plus ou moins dans la durée et qui vont construire, enrichir, complexifier ce mécanisme de médiation. Alors pour conclure, je dirais que donc cette étude des réseaux formels et informels, hein, ou les deux à la fois, permet d'avoir une vision un peu plus dynamique, pour le coup, du fonctionnement du système de contrôle israélien et aussi de cette non-frontière entre espace israélien et palestinien, puisqu'on n'a pas de frontière internationale. Hein. En revanche, on a une frontière, si on n'appréhende pas la frontière dans ses manifestations territoriales, hein, ou à travers la métaphore de la séparation ou du blocage, mais plutôt, comme le dit Didier Bigot, comme un réseau qui vit comme un dispositif des opérations de contrôle, de filtrage, etc., etc., et de régulation des mouvements des personnes, des idées et des marchandises. Donc, une frontière qui fonctionne avec des acteurs extrêmement multiples, formels et informels. D'ailleurs, si on ne prend que les acteurs formels, ben, finalement, on ne comprend rien du tout à ce système. Ensuite, c'est une approche, cette approche en réseau, elle permet aussi de montrer un peu comment s'organise cette économie des relations, hein, les formes de délégation, Hassan Bouakri en parlait tout à l'heure, les formes de délégation du contrôle, qui ne sont plus cette fois-ci des formes de délégation du contrôle de l'État vers des privés officiellement recrutés par l'État, mais cette fois-ci informellement recrutés, mis au service de l'État. Et puis surtout, ce qui me semble intéressant, c'est que on voit bien, donc, on n'a pas simplement un réseau qui fonctionne comme un mécanisme de régulation, mais une frontière qui est véritablement réticulaire, puisque cette fois-ci, les points, les obstacles, ne sont plus sur le terrain, ce ne sont plus des checkpoints, ce ne sont plus des barrières, mais on a une espèce de frontière pontiforme qui se déploie dans l'ensemble des populations. Israélo-palestinienne. Vous avez les juifs israéliens, les palestiniens de Gaza, les palestiniens de citoyenneté israélienne, les palestiniens de Cisjordanie, etc., les palestiniens résidents en Israël. Enfin, je veux dire, vous avez un ensemble d'acteurs qui vont finalement faire complètement partie de l'ensemble de ces dispositifs ou de l'ensemble de ces agencements plutôt, hein, puisque là on n'est plus dans un dispositif. Je pense que le dispositif est intéressant, mais là on est plutôt face à un Léviathan, c'est-à-dire un homme collectif d'une certaine manière. Voilà, je vous remercie de votre attention.